Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Marcel Ngombo. Okapi.
Bonjour à toutes et à tous, tous les plaisirs pour nous de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Quelle est l'importance du bilan des compétences dans une entreprise? Eh bien, on en parle dans ce nouveau numéro du magazine Okapi Service avec notre invité David Pata. Il est expert en organisation du travail et management des compétences. Il est également directeur général des RACIWA. David Pata, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir fait le plaisir de vous déplacer pour parler de ces sujets sur l'importance du bilan des compétences dans une entreprise. Et dans la deuxième partie, à partir de 11h heure de Kinshasa, nous allons nous rendre en direct de l'hôtel du fleuve pour c'est dans le cadre du forum des filles, le forum international des filles organisé par l'UNICEF. Et on va retrouver pour cela jeudi Daniel Kachama. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Dieudonné Nyangasa est à la mise en nom de Prissy Kabouya sur la réalisation de ce magazine présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jour avec ses premiers sujets sur l'importance du bilan des compétences dans une entreprise avec notre expert qui est avec nous dans ce studio, David Pata, qui est expert en organisation du travail et management des compétences, également directeur général de RACIWA. Avoir un personnel qualifié et compétent est un atout indispensable pour rendre une entreprise plus compétitive dans son secteur d'activité, mais face à certains impératifs et innovations qui caractérisent de nos jours le monde des affaires, une évolution des compétences s'avère une nécessité. Cela permet d'analyser les compétences professionnelles et personnelles des agents et cadres d'une entreprise à élaborer un plan cohérent de formation ou de renforcement de capacité. Voilà, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez intervenir, je rappelle le numéro de contact, c'est les 081 890 63 94 ou encore les 09 706 63 94. Vous pouvez aussi en tout cas nous écrire à l'adresse service@radiokapi.net. Quelle est l'importance du bilan des compétences dans une entreprise? On va découvrir tout cela avec notre invité. Voilà, David Pata, d'abord cette première question. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par bilan des compétences?
Oui, le bilan des compétences, c'est une des méthodes utilisées dans la gestion des ressources humaines,
oui,
pour identifier le progrès que un personnel a réalisé durant toute sa vie professionnelle ou pendant un certain temps au sein d'une entreprise, en même temps, l'occasion de déceler les limites entre les compétences dont dispose la personne et également les exigences du travail. C'est suite, n'est-ce pas, à l'écart constaté qu'il y a nécessité, effectivement, de se lancer dans un vaste projet, de voir comment combler, n'est-ce pas, cet écart.
Est-ce qu'il faudra-t-il comprendre par bilan des compétences, comment dire, une espèce de renforcement de capacité et des formations? Parce que bien souvent, il y a des agents ou des cadres dans une entreprise qui restent pendant longtemps travailler sans qu'il y ait des formations de renforcement des ateliers, des renforcements des capacités.
Oui, le renforcement des capacités ou la formation,
oui,
ou encore le développement du personnel et sont de résultats, n'est-ce pas, des bilans des compétences. C'est-à-dire, le bilan des compétences permet de déceler les écarts,
oui,
et pour combler les écarts, il faut, n'est-ce pas, utiliser des outils, des moyens. Parmi les moyens, on peut procéder par les renforcements des capacités, on peut procéder par la formation. On peut également procéder par les systèmes de coaching. Donc, ce sont en fait des moyens qui sont utilisés pour pallier aux insuffisances observées après l'évaluation d'un personnel, c'est-à-dire l'établissement d'un bilan de compétences.
Alors, cela peut se faire sur quel rythme? À quel moment, par exemple, dans une entreprise, on peut estimer qu'il est temps de faire ce bilan de compétences?
Bon, les choix des moments dépend de contexte, dépend de l'entreprise et, oui, également de type de personnel que vous avez.
Oui.
Il y a certains métiers qui sont plus exposés à l'obsolescence des connaissances grâce à l'évolution croissante de des nouvelles technologies.
Oui.
Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui le métier informatique avec l'évolution à grande vitesse, donc il se peut que le personnel à un moment donné soit leurs connaissances sont en fait dans l'obsolescence. Il faudrait rapidement ajuster. Aujourd'hui aussi, quand vous regardez par exemple le métier d'enseignant, avec les nouvelles théories qui sont effectivement proposées par-ci par-là,
oui,
il y a également nécessité qui est effectivement une période courte pour faire le bilan des compétences, etc.
Alors, donc, oui, vas-y,
également,
allez-y, oui,
cela dépend aussi de la politique de l'entreprise.
Oui.
Généralement, on peut procéder par le bilan des compétences après une année, après 2 ans, ou après 3 ans, ou après 6 mois, si l'entreprise s'inscrit dans une logique à long terme.
Alors, ça, c'est important. Vous avez dit, cela permet de rendre l'entreprise plus compétitive sur le marché. Ah, mais bien souvent, c'est pas le cas, en tout cas, pour certaines entreprises, de faire ce bilan des compétences. Parce que c'est un problème de coaching et pourquoi c'est pas toujours dans les entreprises cela n'arrive pas toujours. Il y a des gens qui peuvent rester autant d'années sans avoir connu en tout cas un renforcement des séances de renforcement de capacité. Qu'est-ce qui explique ça?
D'abord, il faut qu'on enlève l'ambroglio qu'il y a le mélange qu'on fait souvent entre l'évaluation,
oui,
classique du personnel et le bilan des compétences. L'évaluation classique consiste à confronter ce que la personne a produit par rapport aux objectifs visés. Et le plus souvent, ça s'est fait après 3 mois, ça peut se faire après 6 mois ou après une année. Et le bilan des compétences vient souvent après une année, 2 ans, 3 ans, dans une période de l'évolution d'une personne où on ne vise pas forcément, n'est-ce pas, les résultats produits, mais on veut voir depuis que la personne a commencé à travailler jusqu'à X temps, quelles sont les compétences nécessaires qu'il avait et de quelle manière il a pu pouvoir développer, et quelles sont les nouvelles compétences qu'il a acquises et comment ces compétences s'observent en termes des exigences de poste actuel. Alors, et donc comme vous allez voir, donc c'est une approche qui est systématique, qui n'est pas d'abord utilisé par tout le monde, parce que beaucoup de personnes ne le maîtrisent pas vraiment, et ils le mélangent avec l'évaluation des compétences, qui met l'accent sur, comme j'ai dit, le rapprochement entre la performance produite par un personnel et les objectifs attendus de lui. Alors, et également, il faut dire que la plupart d'entreprises n'ont pas cette politique, n'est-ce pas? Parce que pour eux, les ressources humaines ne constituent pas des ressources propres qu'il faut gérer à long terme. Et c'est ainsi que vous allez voir beaucoup de toutes ces entreprises ont des difficultés. Il y a du personnel qui quitte à tout moment. En même temps, il faut recruter de nouvelles personnels qui engagent effectivement des ressources, etc. Et vous allez voir, la plupart, surtout les entreprises privées, finissent par disparaître parce qu'ils n'ont pas une bonne politique des ressources humaines.
Alors, allez-y.
Et ces entreprises qui n'ont pas des problèmes, qui ont effectivement des problèmes des ressources humaines, en termes de GRH, ils ne mettent pas l'accent sur le bilan des compétences. Or, le bilan des compétences, comme je l'ai dit, oui, c'est une des approches, une des méthodes la plus pratique qu'il faut accorder beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention, parce que ça vous permet à un moment donné d'inventorier l'ensemble des compétences dont vous en avez, de voir dans le marché de l'emploi ou dans le marché comment l'entreprise évolue et comment vous allez faire face, n'est-ce pas, à la concurrence. Par exemple, si vous êtes dans les ressources humaines, mais vous pouvez voir, par exemple, que dans 10 ans, dans 20 ans, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'entreprises qui évoluent dans le même, dans le même secteur, oui, surtout en mettant l'accent sur le placement. Mais vous allez vous projeter, par exemple, sur des services tels que l'évaluation et classification des emplois, par exemple, la validation des acquis de l'expérience. Donc, ça vous permet effectivement de pouvoir faire un état des lieux des compétences disponibles et de vous projeter dans l'avenir pour voir comment, n'est-ce pas, vous allez vous y prendre. C'est là où on parlera effectivement d'un vaste programme de formation.
Alors justement, pour arriver à faire ce bilan des compétences, il faut nécessairement recourir à un coaching externe.
Mais forcément, parce que c'est une matière très sensible qui demande une approche une approche vraiment bien maîtrisée. Oui. Vous allez voir, parce que dans le bilan des compétences, il convoque par exemple des notions sur la psychologie individuelle. Donc, il faut connaître les différents aspects, n'est-ce pas, de l'homme. Il faut, ça fait convoquer également des aspects, par exemple, liés sur l'organisation et sélection professionnelle.
Oui.
Il demande également des connaissances sur l'inventaire de l'intérêt, n'est-ce pas? Et donc, et puis il faut aussi maîtriser, n'est-ce pas, ce que nous appelons la psychométrie, hein, les domaines qui est consacré à la construction des outils. Parce que là-dedans, il faut d'abord, un, définir ce qu'on entend par compétence de manière opérationnelle, du point de vue, selon les différents points de vue. En même temps, il faut faire ce qu'on appelle l'opérationnalisation des concepts, de ces concepts, et extraire le facteur, les dimensions facteurs et les indicateurs, transformer les indicateurs sous forme, n'est-ce pas, des questions et vérifier si l'instrument est proposé et conçu est valable et également les soumettre pour une étude méthodologique et enfin revenir sur son application. Donc, vous allez voir que c'est un processus qui demande assez de connaissances pointillées.
Bon, David Paton, reviens à vous. Le temps pour nous d'ouvrir le standard parce qu'il y a déjà des auditeurs en ligne. Il y a Charles Kisimba qui nous appelle depuis Lubumbashi et puis Safari qui nous appelle depuis Igabarira Nitori. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de l'importance du bilan des compétences dans une entreprise avec notre invité David Pata qui est expert en organisation du travail et management des compétences et DG de Rassiwa. Vous êtes intéressé par ces sujets, vous voulez intervenir, n'hésitez pas à composer le 081 90 63 94 09 76 63 94.
J'en appelle à un élan général de solidarité.
Par amour pour mon pays.
Par amour pour ma patrie.
Par amour pour ma famille.
Par amour pour mes amis, mes enfants.
Pour la vie.
Pour la survie, pour l'unité.
Par amour pour un peuple résilient.
Un peuple hospitalier.
Par amour pour un peuple grand, uni à jamais.
Par amour pour les déplacés de guerre.
Par amour pour nos soldats au champ de bataille.
Je prie, je participe.
J'assiste, je contribue.
Je partage.
Je reste vigilant.
Par amour, je suis prêt à tout pour la RDC.
Par amour, faites un geste de solidarité en faveur des Congolais en détresse.
Face à l'appel de solidarité et de mobilisation du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envoyez vos contributions par M-Pesa au 09 134, par Orange Money au 084 006 40 83, par Airtel Money au 0600 et par Afrimoney au 090 76 26 755. Par amour pour la RDC, je ferai tout. Un message du ministère des Affaires Sociales et des Actions Humanitaires.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi.
Charles Kissimba nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Charles.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour aussi au coach.
On vous écoute.
Oui, cher coach, moi je voulais un peu savoir la base légale dans les contrats, dans les codes du travail congolais, la base légale par la, à partir de laquelle nous pouvons trouver les concepts de la bilan du travail. Ensuite, pourquoi si nos CV, il n'y a pas cette rubrique-là réservée pour mettre, pour afficher quoi ça, les bilans du travail. Alors, est-ce que dans un contrat d'essai, on peut aussi exiger un quelconque bilan du travail? Voilà un peu, monsieur Marcel. Bonne journée.
Merci, Charles, de vous appeler depuis le Bombashi Safari. Vous êtes à Igabarir, à Ituri. Bonjour, Safari.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Par rapport à l'émission, j'ai personnellement deux questions à poser à M. Lévité. J'aimerais savoir qui est censé faire le bilan de compétences au sein d'une entreprise. Est-ce que c'est le chef de la entreprise ou entre structures qui vient faire ce bilan? Donc, pour finir, quelle est la différence entre faire le bilan d'expérience et tout ça avec l'examen d'expérience? Il y a certaines entreprises qui demandent le bilan, plutôt les années d'expérience avant que vous soyez engagé. Quelle est la différence entre cela et faire le bilan de compétences? C'est seulement ça. Je vous remercie.
Merci Safari, depuis Igabarir Anitori, David Pata.
Ok, la base légale, pour le moment, le terme bilan n'est pas employé in extenso dans notre code du travail, mais le terme bilan, disons, cette activité de bilan peut se justifier par ce qu'on appelle évaluation du personnel au sens large. Donc c'est un des aspects hein, au sens large de l'évaluation. Donc si vous voulez le justifier dans le cas de votre entreprise, il faut prendre l'article qui stipule que le personnel, n'est-ce pas, disons, l'employé a le mandat, le prérogatif de pouvoir évaluer son personnel. C'est sous cette étiquette-là qu'on peut, que vous pouvez justifier cette activité. Et, maintenant, est-ce que pourquoi dans la, il n'y a pas une rubrique au niveau des CV? Parce que simplement, le bilan des compétences, ce n'est pas vous qui allez élaborer le bilan des compétences. Donc, ce n'est pas à l'agent lui-même de faire son bilan des compétences. Le bilan des compétences est toujours organisé par l'employeur parce que il demande des fonds, disons des ressources importantes, n'est-ce pas, en termes financiers et même en termes des experts qu'il faut engager. Et donc, en réalité, donc, il ne peut pas y avoir, vous ne pouvez pas disposer, n'est-ce pas, d'une rubrique sur le bilan des compétences. Mais certains d'entre nous essayent quand même d'ouvrir une rubrique où ils disent, par exemple, voici, par exemple, les capacités, les compétences. Ils essayent. Mais ces compétences signalées ne sont pas réellement des compétences que les personnes détiennent parce qu'il faut les dénicher. Et puis, peut-on faire le bilan des compétences pendant la période du décès? En principe, l'entreprise fait le bilan des compétences, organise cette activité pour, à un moment donné, voir de manière générale quelles sont les compétences qu'elle dispose, de deux, voir de manière particulière comment chaque personne a pu développer des compétences pendant le temps de sa prestation au sein de l'entreprise, et ceci pour permettre d'avoir une vision d'ensemble sur la nature des services offerts et également les compétences disponibles et faire, n'est-ce pas, faire des projections en termes de gestion des ressources humaines et même en termes, n'est-ce pas, de capitalisation du personnel. Alors, qui est censé faire le bilan des compétences? En principe, la personne qui définit les cadres généraux de bilan des compétences, c'est le manager, les top managers. Et la personne qui est censée organiser le bilan des compétences au sein de l'entreprise, c'est la direction des ressources humaines, hein, ou le directeur des ressources humaines. Et la personne qui est censée, n'est-ce pas, exécuter, ce sont les chefs du personnel, les chefs de service, mais également des experts attitrés, des psychologues ou des psychologues qui ont été formés, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de compétences et également des ressources humaines qui sont en mesure de pouvoir vous accompagner, n'est-ce pas, dans cette activité. Alors, la différence entre bilan de compétences et année d'expérience, c'est-à-dire que le compétence, c'est quoi? Le compétence, c'est un ensemble, n'est-ce pas, des capacités que une personne dispose ou a pu développer en exerçant un travail. Alors, l'année de l'expérience, c'est justement la période, n'est-ce pas, pendant laquelle on a pu à prester. Et pendant cette période de prestation, de l'année de l'expérience, ça peut être 10 ans, 20 ans, la personne peut avoir développé autant de compétences.
Oui.
Cela dépend du poste qu'il a occupé ou des entreprises dans lesquelles il a pu évoluer, etc. Donc, vous sentez, donc quand, si on doit faire le croisement, on dira que l'année de l'expérience est le champ dans lequel se développe et se consolide les compétences.
081-890-63-94 ou 099-706-63-94, c'est le numéro d'appel. Si vous voulez intervenir dans ce numéro du magazine Okapi Service, où nous parlons de l'importance du bilan des compétences dans une entreprise avec notre invité David Patade. Je vous rappelle le numéro des contacts, c'est les 081-890-63-94 ou les 099-706-63-94. Alors, vous avez insisté sur ces bilans des compétences et c'est généralement important pour tous les personnels ou bien les catégories des personnels pour lesquels il faut absolument ces bilans des compétences.
En principe, c'est pour tout le monde.
Oui.
C'est pour tout le monde. D'ailleurs, l'entreprise doit, comme j'ai dit, l'entreprise offre des services. Pour produire ces services, l'entreprise doit disposer d'un ensemble de compétences.
Oui.
Ça dit que l'entreprise a besoin de savoir les compétences générales et les compétences particulières. Et les compétences sectorielles également, voire même les compétences selon les directions, selon effectivement. Par exemple, prenons un cas concret. Si nous prenons, par exemple, une chaîne, n'est-ce pas, de radio, nous prenons une chaîne de radio, la chaîne de radio doit disposer des personnes ayant des compétences, n'est-ce pas, dans l'enregistrement, dans le maniement, n'est-ce pas, de tous les outils, n'est-ce pas, des caméras, etc. Également des journalistes. Donc, à un moment donné, l'entreprise doit se rendre compte que si, pour ses services d'informer les grands publics et de communiquer, si elle dispose effectivement ses compétences ou pas. Et donc, les catégories qui sont concernées, c'est toutes les catégories de l'entreprise, parce que l'entreprise doit avoir une vision d'ensemble, une vision panoramique sur les compétences dont elle dispose. Ceci lui permettra de pouvoir définir une bonne politique en termes de ressources humaines et à court terme et à moyen terme.
Alors, vous avez dit c'est il faut absolument un coaching externe. Alors comment ça se passe? Est-ce que ce sont les entreprises qui doivent faire la démarche vers entre les personnes chargées de faire ce coaching ou ce sont ces coachs qui vont aller vers les entreprises pour solliciter en tout cas pour parler de leurs services?
Les deux approches valent leur pesant d'or.
Oui.
C'est-à-dire que, en principe, l'entreprise doit exprimer le besoin. Lorsque l'entreprise exprime le besoin ou l'organisation, elle procède généralement par ce qu'on appelle l'appel à manifestation d'intérêt public. Oui. Ceci, c'est pour permettre à ce que d'avoir un bon bassin, de constituer un bon bassin, des cabinets expérimentés et qui vont vous offrir qui vont vous présenter, n'est-ce pas, des méthodologies calibrées et sur base desquelles vous allez faire un choix d'un cabinet qui a de l'expérience et qui a des experts qui sont en mesure de pouvoir vous accompagner dans ces processus. Ou encore, des cabinets d'expertise, par exemple comme Ratio, qui est expérimenté dans les domaines, qui a été élaboré, qui a été mis en place d'ailleurs pour principalement s'occuper de tout ce qui est organisation du travail et management des compétences, pourrait aller auprès des structures pour proposer les marchés. Mais il est toujours intéressant lorsque l'entreprise manifeste des besoins. Donc, comme je dis, les deux approches valent leur pesant d'or.
Voilà, vous avez parlé du Ratio dont vous êtes le directeur général. Alors, concrètement, comment ça se passe avec Ratio lorsqu'il y a peut-être des chefs d'entreprise qui sont intéressés et qui voudraient bénéficier des services de Ratio?
Donc, nous avons d'abord le site www.rassiwa.com où les différents services sont publiés. Ils peuvent nous contacter directement par mail. Et dès qu'ils vont nous contacter, nous allons en fait avoir un rendez-vous avec le personne qui manifeste l'intérêt pour discuter sur leurs besoins, les objectifs, n'est-ce pas, qui se sont fixés, et également, à la fin, proposer une méthodologie contextualisée. Parce que, comme vous savez, toute entreprise a ses réalités socio-techniques spécifiques. Ce qui fait que, lorsque vous procédez à un bilan des compétences, il faut tenir compte à ces réalités spécifiques. La méthode qu'on propose, n'est-ce pas, pour une entreprise qui a des réalités socio-techniques, par exemple, en termes de services ou minières, ne sont pas les mêmes réalités socio-techniques, et cela nécessite, n'est-ce pas, de proposer des méthodes nouvelles ou des méthodes adaptées. Souvent, sont des méthodes qui sont basées sur l'approche des contextualisations ou des théorisations ancrées. C'est-à-dire proposer une méthode qui est adaptée aux réalités socio-techniques et selon les objectifs fixés par les bénéficiaires.
Importance du bilan des compétences dans une entreprise, eh bien nous en parlons dans ce numéro du magazine Okapi Service avec David Pata, expert en organisation du travail et management des compétences et DG des RACIOA. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions, n'hésitez pas à composer les 081 890 63 94 ou alors le 099 716 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Edmond Bokolo nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Maître Edmond. Maître Edmond, vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Il y a les soucis techniques avec la ligne de Maître Edmond Bokolo. On espère qu'on va le retrouver. On poursuit alors avec notre invité David Pata par rapport à ces sujets sur l'importance du bilan des compétences dans une entreprise. Et encore une fois, je rappelle le numéro des contacts. Si vous voulez intervenir, composez les 081-890-63-94 ou les 099-706-63-94. Alors, David Pata, parce que vous avez insisté sur l'importance du bilan des compétences, est-ce qu'il y a des entreprises qui œuvrent peut-être dans un domaine donné et par rapport à votre expérience dont vous estimez qu'il est impératif pour ces genres d'entreprises, en tout cas pour faire face à tout ce qu'il y a comme impératif et innovation dans le monde des affaires, en tout cas de penser à faire en tout cas par rapport à leurs possibilités ces bilans des compétences.
Oui. Donc comme je l'ai dit tantôt ici, il n'y a pas beaucoup de cabinets qui sont spécialisés dans ces domaines, parce que, comme vous le savez, beaucoup de cabinets n'emploient des psychologues. Les psychologues sont en fait des gens qui ont été créés, qui ont été formés pour comprendre l'homme, déceler les différents outils ou les différentes potentialités que comporte l'homme, oui. Et en même temps pouvoir savoir les gérer et les traiter conséquemment. Et donc, RACIOA a des compétences très pointillées, comme je l'ai dit, peut accompagner, n'est-ce pas, toute entreprise, cela dépend, peu importe le secteur, oui. Pour pouvoir définir le bilan des compétences. Donc, j'ai dit, le bilan des compétences permet à l'entreprise de pouvoir définir, n'est-ce pas, savoir quelles sont les compétences dont elle dispose et à quelle adéquation que ces compétences entretiennent avec les services. Et ceci lui permet de se projeter dans la durée, en même temps d'élaborer, n'est-ce pas, un plan, n'est-ce pas, de renforcement des capacités.
On va retrouver Maître Edmond Bokolo qui est de nouveau en ligne depuis Kinshasa. Maître Edmond Bokolo, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà. Bon, apparemment, la ligne continue à poser problème. Essayez de vous déplacer, hein, Maître Edmond. Il n'a plus à Kinshasa. Je ne sais pas si il y a un problème par rapport à cause de la pluie. J'en sais rien. Alors, essayez de vous déplacer un tout petit peu. Peut-être ça sera mieux. On vous écoute, Maître Edmond. Bon, on va essayer de bien tendre l'oreille. Allez-y.
Bon, je voudrais quand même dire, surtout le nom de Sosieko, qui par exemple utilisait des compétences dans une entreprise. Je sais bien que Sosieko, c'est une société dans une entreprise, et plusieurs fois, moi-même, j'ai eu à soumettre mes demandes à l'époque au niveau de Sodeico qui se sont soldés toujours qui se sont soldés à un échec. Ici je pense que ceci il faut dans un pays par exemple avoir une politique de compétences au niveau des entreprises, par exemple pour le recrutement, tel que ça se fait au niveau de Sodeico. Moi j'ai toujours un petit doute, parce que vous allez voir que lorsque Sodeco, par exemple, est contacté par une société qui a besoin d'une certaine compétence et que Sodeco doit pouvoir lancer les offres pour le recrutement, et la plupart des personnes, par exemple, que j'ai connues et que je sais qu'ils ont eu à déposer leur candidature au niveau de Sodeco, par exemple, n'ont jamais été retenues. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai toujours mis...
Maître Edmond, ici, on est en train de plus parler du bilan des compétences au sein d'une entreprise. On n'est pas en train de parler des agences de placement lorsqu'il y a des offres qui sont lancées à travers cette agence. Donc ça, c'est peut-être, ça fera l'objet de notre sujet. Mais si on parle plutôt de l'importance du bilan des compétences, c'est-à-dire vous avez des personnels, un personnel compétent, mais on estime qu'après un certain moment, il faut quand même essayer de faire le bilan des compétences pour voir si, par rapport aux besoins qui s'imposent, il faut des formations pour ces personnels. On reste un peu dans ce cadre-là. Pour ce qui est du recrutement, on pourra après prochainement. Alors, si vous voulez bien revenir, passer.
Merci beaucoup.
Oui.
Oui, merci beaucoup pour m'avoir regardé. Je comprends, je voulais y arriver.
Oui.
Bon, moi, je pense que, monsieur le journaliste, je pense que c'est une question qui est résolue par la loi.
Oui.
Je pense que le travail impose même à chaque employeur de pouvoir envoyer, soumettre les travailleurs à des formations professionnelles. D'ailleurs, au début de chaque année, les entreprises sont obligées de faire ce qu'on appelle la déclaration de la main-d'œuvre au niveau de l'ONEM. Et dans cette fiche de la déclaration de la main-d'œuvre, il y a même une rubrique réservée à la formation professionnelle. Et logiquement, au sein de chaque entreprise, notamment au début à la fin de chaque année, il est obligé de pouvoir faire un bilan, surtout sur les compétences. Parce que, je suis même l'invité, et les objectifs de l'entreprise peuvent varier d'une année à une autre selon les champs d'application de chaque entreprise. Et voilà pourquoi, si aujourd'hui, par exemple, ce bilan où cela ne se fait pas, c'est parce que beaucoup d'entreprises ne respectent pas le prescrit de la loi. Vous allez voir que nous avons, par exemple, une institution de préparation professionnelle. Alors que la loi de 2002 sur le code du travail impose à chaque entreprise d'envoyer, c'est une obligation même, d'envoyer le personnel pour la mise à niveau, pour le renforcement des capacités. Et voilà pourquoi vous allez voir que dans notre pays, au sein des entreprises, si les compétences ne sont pas toujours évaluées, c'est parce qu'il n'y a pas un bilan. Donc je pense que là, j'ai raison, bien sûr, l'invité, dans ce sens qu'il faut un bilan à chaque fin de l'année, au début de l'année, et soumettre, comme le veut la loi, les travailleurs à une formation professionnelle.
Voilà, merci à... Merci, Maître Edmond, on a retenu l'essentiel, la passion de la communication, c'est gâte. En tout cas, merci d'avoir appelé depuis Kinshasa. Grâce à vous êtes à Bounia, en Ituri. Bonjour, Grâce.
Oui, bonjour, Capi. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, moi, mon avis, bon, je suis à Bounia. Une fois, j'ai travaillé dans une entreprise, j'ai fait l'expérience de où. Et on a passé les tests, j'ai reçu le test. On a passé l'interview, j'ai reçu l'interview, mais je suis étonné, on a engagé ne sont pas, ceux qui n'avaient pas l'expérience, et qui, ceux-là qu'on se connaît même, mais en les envoyant.
Grâce, s'il vous plaît. Comme je le dis à Maître Edmond tout à l'heure, on parle plutôt du bilan des compétences pour une personne qui travaille déjà. Pour ce qui est du recrutement, bon, puisque ces sujets également vous intéressent, bien qu'on en a plusieurs fois parlé dans ce magazine Okapi Service, on pourra y revenir. On parle plutôt de l'importance du bilan des compétences. Pour une personne qui travaille déjà, qui est la personne est compétente, mais on estime qu'à un moment, il faut voir comment renforcer les capacités, peut-être par rapport aux besoins de l'entreprise ou à certains impératifs qui s'imposent dans ces secteurs. Et il est important de faire un bilan des compétences. C'est ça le sujet. Et vous avez une préoccupation là-dessus ou bien, bon, c'est bon pour vous?
Oui, je vous ai suivi. Alors,
allez-y, vous êtes en ligne, grâce. Allez-y.
Oui, c'est bien le bilan des compétences, c'est bien, il faut avoir la compétence pour bien travailler. Bon, je voulais suggérer un peu pour les universitaires, pour celui qui vient fraîchement de l'université, il n'a pas la compétence, mais il est quand même du domaine qu'on demande, qu'on l'a demandé, mais il n'a pas l'expérience, donc il vient fraîchement de l'université. Et pour cela, c'est ça qui est ma préoccupation.
Merci, grâce d'avoir appelé depuis Bounia. Platini Bombo, vous êtes à Mbandaka. Bonjour Platini.
Marcel, bonjour, je salue l'invité.
On vous écoute, Platini.
Voilà, merci beaucoup Marcel. Je pense que j'ai bien suivi l'invité. Et aussi, j'ai bien suivi le président Cavasso de nos auditeurs à travers le pays. Mais moi, ce que moi je veux vous dire, c'est à rapport avec la thématique du jour, c'est si vous parlez de la compétence d'une personne, apparemment, parce que ici, c'est aussi une question liée à la personne qui travaille déjà, apparemment.
Oui, tout à fait.
C'est ce qu'on a entendu dans le sujet. Mais moi, je vais vous dire ceci, parce que j'ai avec une idée, même idée avec Maître Mokolo, lorsqu'il a dit qu'il y a le temps lui-même prévoit dans le code de vie de travail, que si quelqu'un travaille déjà dans une entreprise privée, dans son mandat, dans son fin de travail, il y a ce qu'on appelle là la cessation de fait de travail, donc ça de cette entreprise là. Alors moi je vais vous dire une chose, parce que souvent quand il y a du recrutement dans une entreprise soit privée, parce que quand vous recrutez, si vous estimez que vous êtes compétent dans tout ce que vous a demandé de fournir comme le pièce en amont. Maintenant, si vous êtes capable et vous êtes déjà dans ce service là, vous commencez dans le 1 et pour descendre à la fin, souvent parce qu'il y a aussi des services qui a, c'est ce qu'on appelle le contrat. Donc vous êtes dans ce service pour un contrat de 2 ou 3 ans. Mais à la fin de ce contrat-là, je pense qu'il y a tous les services organisés pour vous tester, pour vous délivrer un document, ce qu'on appelle l'attestation de ce service rendu. C'est ça qu'on se soucie de ça. Mais moi, j'ai une question à poser. Hein. Je pense que l'invité est là, mieux placé pour nous expliquer. Et aussi, moi, dans cette thématique, je souhaiterais même que inviter même les gens de l'OIM, parce que c'est ça aussi. Ils ont quand même le service de l'État qui est censé aussi à régler aussi ces systèmes-là. Moi, la question que moi, je vais poser, il y a aussi d'autres services. Et quand vous êtes là, vous avez beaucoup travaillé. Mais à la fin du compte, si votre ce qu'on dit là, le terme m'échappe, hein, il y a un terme là qui m'échappe à tout ça. Si vous êtes à la fin, mais pour vous délivrer les documents, les services ne vous délivrent pas. On dit que non, tout ça, vous n'êtes pas totalisé, mais le contrat, c'est pas le terme que je cherche, mais le contrat. Si vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre contrat, et d'emblée comme ça, on vous révoque de ce service-là. Est-ce que, dans ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ce service-là peut vous remercier sur un document compétent ou comment?
Merci.
Voilà, c'est ce que je voudrais voir, effectivement, sur l'invité autour de ça.
Voilà. Merci Platini Bombo d'avoir appelé depuis Mbandaka. David Pata.
Ok. Donc, premièrement, comme je l'ai dit, le bilan des compétences avec sa... N'est pas expressément dit dans le code du travail, mais il est dit dans le code du travail, c'est que j'ai dit, l'évaluation du personnel. Donc, nous pouvons loger le bilan des compétences comme une des activités de l'évaluation générale du personnel. Je l'ai dit aussi que le bilan des compétences a comme objectif de faire un état des lieux des compétences qui sont disponibles au sein de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de se projeter dans l'avenir en même temps d'élaborer ce qu'on appelle la politique de formation et également mettre en place des programmes de formation. Mais maintenant, il faut différencier l'évaluation du personnel au sens classique et le bilan des compétences. L'évaluation du personnel met l'accent sur la comparaison entre les performances produites par les personnels et les objectifs visés pour voir s'il y a des écarts et également procéder à des corrections avec des formations. Tandis que le bilan des compétences fait la revue des compétences que une personne a pu développer pendant une certaine période. C'est pourquoi le bilan des compétences est consacré pour des gens qui travaillent. C'est-à-dire, on voit quelles sont les compétences qu'une personne a développées après une certaine période ou un nombre d'années dans un service ou au sein d'une entreprise. Et également, on peut voir également, de manière générale, les compétences que l'entreprise dispose, in situ, en ces moments précis, en lieu et place du travail, et en ces moments, quelles sont les compétences dont l'entreprise dispose, celles-ci lui permettent de pouvoir définir sa politique, n'est-ce pas, en termes du personnel, et surtout de formation. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas mélanger le bilan des compétences avec ce qu'on appellerait le bilan psychologique. Une personne qui n'a pas encore travaillé, qui vient s'intégrer dans l'entreprise, il va être évalué sur base de quoi? On l'évalue sur base des connaissances et sur base des aptitudes. On aura peut-être une autre mission où nous allons parler des aptitudes et des compétences.
Oui.
Ce sont des notions différentes. Les aptitudes sont des compétences, disons, sont des dispositions ou des prédispositions naturelles qu'une personne possède et qui sont nécessaires pour l'exécution d'une tâche. Les psychologues ont révélé qu'il existe un certain nombre d'aptitudes naturelles que l'être humain possède. On y reviendra. Mais tandis que les compétences sont des capacités qui ont été développées in situ en faisant un travail. Et de quelles capacités sont nécessaires également dans l'exécution d'une tâche. Mais pour qu'une personne puisse développer des compétences dans un domaine précis ou dans un domaine particulier, la personne doit avoir certaines prédispositions naturelles. Par exemple, pour un journaliste, les journalistes doivent disposer, par exemple, des capacités, n'est-ce pas, de présentation d'un journal, des capacités de rédaction. Mais pour avoir la capacité de présentation, il faut avoir l'aptitude verbale. Et pour avoir la capacité de rédaction, il faut disposer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle capacité, n'est-ce pas, de l'écrit. Vous voyez, des aptitudes de l'écrit. Hein? On appelle ça également l'aptitude verbale écrite.
David Pata, vous allez poursuivre. Permettez-moi d'accorder la parole à des auditeurs qui sont en ligne, sinon ils vont un peu s'impatienter. André Ikoma, qui est ici à Kinshasa, également Gustave, qui nous appelle de Kinshasa. André Ikoma, bonjour.
Bonjour la radio, Capi.
On vous écoute.
En tout cas, je salue d'abord, comme je l'ai toujours fait, la pertinence de la thématique, parce que moi je réalise que la radio Capi, bon, hormis ce que je peux dire, je vous épargne en tout cas de beaucoup de choses que je peux dire, mais sinon vous avez toujours animé des sujets qui touchent la sensibilité et l'intérêt de la population. Alors ce que je veux dire avant peut-être de dire quelque chose sur la compétence le bilan des compétences, je veux quand même faire un état des lieux ici au Congo. L'invité l'a si bien dit, j'ai un peu analysé parce que je suis journaliste de formation, mais je continue ma formation en leadership et management à l'Institut of the Management à Lille. Alors, j'ai fait cet état des lieux ici au Congo, à Kinshasa. Il y a très peu de ce genre d'entreprises qui sont là pour les coachings, qui sont là pour uniquement ce genre de tests et tout ce qui va avec. Alors, l'invité l'a si bien dit, mais j'ai suivi qu'il s'est beaucoup penché dans l'intérêt, non pas de l'entreprise, mais il y a deux volets. Lorsque on passe dans une analyse dans un bilan, lorsqu'on fait un bilan des compétences, il y a d'un côté pour l'entreprise, comme il a dit, l'état des lieux n'est pas par rapport aux objectifs fixés par l'entreprise. Et un autre volet, c'est que les employés peuvent aussi être récompensés lorsqu'on va évaluer que tel employé a été bénéfique ou a répondu aux attentes de l'entreprise. Il peut avoir de récompense comme quoi l'élévation de poste, par exemple. Si quelqu'un était huissier et s'il a bien travaillé après, par exemple, le bilan de compétences, celui qui était huissier peut se voir déjà passer du huissier à un autre poste. Ça, c'est aussi un avantage du côté des employés. Donc, il y en a beaucoup d'avantages. Mais je vais, poser une ou deux questions à l'invité.
Allez-y.
Quelles sont les techniques, qui permettent de passer à cet exercice, à l'analyse et à la comptabilité quelles sont les techniques, comment procéder à ce niveau-là? Quels sont les éléments, quels sont les facteurs qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir passer à cet exercice? Voilà un peu ce que je voulais dire. Sinon, je salue tous ces gens qui nous suivent à travers le monde.
Voilà, merci André Coma d'avoir appelé depuis Kinshasa. On reste à Kinshasa pour accorder la parole au tout dernier auditeur pour ce sujet. C'est Gustave. Bonjour Gustave. Gustave, vous êtes en ligne? Ah, désolé, Gustave n'est plus en ligne. Voilà, David Patavant de répondre à André Coma, qui est journaliste et qui nous a dit même qu'il est en train de suivre une formation en leadership et en management. Alors, vous êtes en train d'insister sur le fait que lorsqu'on parle des compétences, en tout cas, il s'agit d'une personne qui travaille déjà et qui, à un certain moment, face aux besoins ou bien face, comme je le disais, à certaines innovations, à certains impératifs dans ces secteurs, il s'avère important de faire un bilan des compétences pour voir dans quelle mesure augmenter encore les capacités de ces travailleurs. Et là, maintenant, vous avez suivi André Coma qui a également insisté sur le fait que c'est très important et qui a cherché à savoir quelles sont les techniques justement par rapport à ces bilans des compétences.
Ok, avant de prendre André Coma, je fais marche en arrière. Donc, rapidement, on a soulevé l'aspect d'attestation des services. Donc, il faut noter que l'attestation des services, c'est un document légal qui, en principe, est délivré lorsque la personne a terminé, a clôturé son contrat. Et si l'entreprise ne vous le donne pas, s'il y a une séparation dans l'amiable, et vous pouvez aller traduire l'entreprise en justice. Vous devez aller voir l'inspecteur du travail, soumettre votre problème, et ils vont vous le faire. Donc, c'est un document administratif. Et quand on donne ces documents, on ne fait pas le bilan des compétences. Donc, c'est un document qui atteste simplement que vous avez passé quelque temps, au sein de cette entreprise-là. Mais il ne vous confère pas directement ou on ne le délivre pas après un bilan des compétences. Aussi, on parle de quand vous avez parlé de l'ONEM, mais l'ONEM ne fait pas le bilan des compétences. Il ne fait pas, tout l'ensemble, des techniques comme nous avons dit. L'ONEM n'est pas spécialisé dans l'évaluation et classification des emplois, n'est pas spécialisé dans le bilan des compétences, n'est pas spécialisé dans la validation des acquis de l'expérience. L'ONEM est là, justement, pour, servir de guichet et recevoir, les CV de gens et orienter, etc. Mais ils ne sont pas spécialisés dans ces domaines techniques.
Alors, rapidement la question d'André Coma sur les techniques, oui.
La question, et puis comme technique, donc parmi les facteurs à explorer,
oui.
Alors donc, lorsqu'on parle des compétences, souvent, on les définit à trois dimensions. Donc on parle de connaissances, donc on parle de savoir,
oui.
On parle de savoir-être,
oui.
Et on parle de savoir-faire. Bon, ça, c'est une confusion qu'on a souvent entretenue, parce que les savoirs recouvrent les connaissances, les savoir-être recouvrent ce que nous appelons les aptitudes et la personnalité, et vous avez les savoir-être qui, en réalité, sont des compétences. Alors, à ce niveau, vous allez explorer quoi? Donc, faut voir la revue de la littérature, comment on définit de manière opérationnelle ce qu'on appelle compétences. Il faut voir également le fiche de poste, qu'est-ce que le fiche de poste est défini comme compétences spécifiques liées à ces métiers?
Oui.
Parce qu'il ne faut pas divaguer, il ne faut pas prendre une définition généraliste qui ne va pas vous servir. Donc, il faut prendre les compétences qui sont dédiées, qui sont reconnues dans les fiches de poste. Ce sont ces aspects qui vont constituer des matières, n'est-ce pas, d'examen. Et généralement, on utilise les entretiens, mais les entretiens doivent être orientés avec ce que nous avons dit, le bilan des compétences. On procède également à certains tests psychométriques.
Oui.
À certains tests psychométriques qui peut-être mesurent certaines compétences techniques qui sont déjà connues, n'est-ce pas? Par exemple, la capacité de planification, de management, etc. Ces compétences-là, on peut les mesurer avec certains des instruments déjà préconnus, etc. Donc, il faut maîtriser tous ces aspects-là. Ça vous permettra d'être encore plus fort et savoir, au regard des bilans des compétences, faire la restructuration, la promotion et la formation du personnel.
Et pour ceux qui sont intéressés, donc vous vous rappelez hein, comment ils peuvent entrer en contact avec Rassioa parce que vous êtes directeur général de Rassioa.
Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter moi-même par le numéro 0081-209-250-6 à la fin ou encore 09-98-96-98-99 ou aller sur le site www.rassioa.com.
Voilà, merci David Pata. Nous rappelons que vous êtes expert en organisation du travail et management de compétences et vous êtes également directeur général de Rassioa. Merci d'avoir été des nôtres pour aborder ces questions sur l'importance du bilan des compétences.
C'est moi qui vous remercie.
Dans une entreprise, on espère vous retrouver prochainement. On va souffler un peu en musique et puis comme je l'ai annoncé après le flash d'information de 11h, nous allons nous rendre à l'hôtel du fleuve ici à Kinshasa. On va rejoindre jeudi Daniel Kachama dans le cadre du forum des international, défi organisé par UNICEF. Merci à Dionysie Dangassa qui était en tout cas à la mise en nom de cette première partie et à Priscilla Kabuya qui est à la réalisation. On vous retrouve après le fin de formation depuis l'hôtel du fleuve.